Alors, merci aux deux organisatrices, d'abord, de m'avoir conviée à ce colloque. Je vois que je suis la seule étrangère qui va parler aujourd'hui.
Oui, ça dépend ce que tu appelles étrangère, puisque Sylvie Seb, qui va intervenir sur la formation, maintenant, est maintenant genevoise. Donc, institutionnellement, je considère qu'elle est étrangère.
Voilà. Mais je me sens bien en famille, dans la mesure où Genève, c'est quand même la porte à côté, et que par ailleurs, je suis entourée de collègues avec lesquels j'ai collaboré depuis des années. Voilà, alors j'ai repris le titre que m'avait proposé Anne-Marie Chartier, en considérant que c'était finalement un certain challenge qui tombait assez bien pour moi, 30 ans, faire un parcours rétrospectif de 30 ans, dans la mesure où 30 ans, ça coïncide pour moi avec le moment où j'ai eu mon poste de professeur à l'université, complété d'un poste de co-direction d'une école qui est la Maison des Petits, école qui était rattachée à la faculté de psychologie et des sciences d'éducation. Donc c'est à ce moment-là que j'ai dû entrer, on va dire, dans le champ des sciences de l'éducation. Et c'était finalement intéressant d'essayer de voir rétrospectivement ce qui s'était passé. Alors, je fais quelques remarques au préalable qui sont en toile de fond, je crois, de mon exposé. C'est une série de points sur lesquels on pourrait débattre, bien sûr. Je le ferai pas parce que j'en ai pas le temps. Mais je voudrais bien sûr insister juste sur le fait que je connais assez bien le contexte genevois, nettement moins bien le contexte français, et je pense qu'on pourrait analyser les échanges qui ont eu lieu entre autres Genève, parce qu'il faut dire que donc c'est le contexte genevois, ce n'est pas le contexte suisse, parce qu'en Suisse chaque canton est autonome en matière d'éducation, et il y a en même temps des différences, des ressemblances entre ce qui peut se passer à Genève et ce qui peut se passer en France. Simplement pour marquer une grande différence, c'est que à Genève en particulier, mais même en Suisse romande en général, nous n'avons pas d'éditeur de manuels d'apprentissage de la lecture. Et ça fait une grande différence. Et à l'époque où j'ai commencé à m'intéresser à l'apprentissage de la lecture, en fait, les enseignants genevois étaient sous un régime selon lequel ils ne devaient pas utiliser de manuel. Ils devaient partir de la littérature enfantine, et ça a duré pendant plusieurs décennies. Donc, il n'y avait pas du tout à Genève cette guerre des manuels qui peut exister parfois. Par contre, je dirais que sur le plan des débats, de toute l'atmosphère autour de la lecture, bien entendu, les enseignants genevois sont beaucoup influencés par ce qui peut se passer en France, parce qu'il n'y a pas non plus une masse critique à Genève pour alimenter les débats sur la lecture. Voilà. Quant aux autres points, je pense qu'on pourra y revenir si ça vous intéresse, mais je ne vais pas les développer. Peut-être juste dire que si j'ai mentionné le fait que je considère que la recherche en situation de classe et la recherche action ne se superposent pas, c'est que là aussi, il y a 30 ans, le leitmotiv était faire de la recherche action, seulement de la recherche action, il n'y a que ça de vrai pour faire avancer les sciences d'éducation, et que dès le départ, j'ai essayé de me situer dans une perspective un peu différente, en considérant qu'il fallait bien sûr aller sur le terrain, mais il fallait en même temps essayer de coupler des recherches en situation de laboratoire et en situation de classe pour essayer de montrer que ces deux types de recherches puissent fertiliser l'une l'autre. Alors, le plan de ce que j'ai envie de vous dire, donc j'ai repris un peu à la lettre trois décennies, les années 80, je considère qu'elles sont marquées par des positions divergentes entre les praticiens et les chercheurs. J'essaierai de vous donner quelques points de repère. Les années 90 me semblent au contraire montrer un début de rapprochement entre les deux champs, la pédagogie, la pratique et la recherche. Et puis, dans notre début de 21e siècle, ce qui m'apparaît important, ce sont les quelques études, méta-analyses que nous avons maintenant qui concernent réellement des études comparatives entre différentes méthodes. Ceci dit, on est loin encore de la coupe aux lèvres et qu'il y a des défis à relever pour le futur. Alors, les années 80, et là je me place du point de vue de Genève, du milieu éducatif genevois, c'est donc des années pendant lesquelles je passe beaucoup de temps dans les écoles, en particulier dans une école, mais dans d'autres écoles aussi, et où je suis novice dans ce domaine, et je suis frappée par, on va dire, l'idéologie, le discours dominant des enseignants genevois de cette époque. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont inspirés par des ouvrages français. Ils les ont pas toujours lus, mais ils ont tiré un certain nombre de leitmotifs. Ils parlent beaucoup, bien sûr, de la devinette linguistique. Et c'est ce climat qui prédomine dans les écoles genevoises. Si on considère dans le même temps ce que nous disent les chercheurs, parce que venant d'un domaine de recherche, en même temps je lisais les travaux des chercheurs de la même décennie, malheureusement pour l'essentiel à cette époque anglo-saxon, il y a eu quelques progrès, eh bien je mentionne juste trois directions dans lesquelles on a des travaux de recherche, donc dans les années 80. D'abord des travaux qui montrent que le contexte est facilitateur, mais seulement dans une moindre mesure, et que ce sont essentiellement les moins bons lecteurs qui font appel au contexte. Alors, je ne commente pas en détail ce résultat de recherche, mais ça dit une recherche sur des élèves de quatrième année primaire qui montre que cette influence, vous voyez que les pentes des deux courbes, des bons lecteurs et des moins bons lecteurs sont très différentes, et ceux qui sont vraiment influencés par la présence du contexte sont les moins bons lecteurs. Alors, ce genre de données, d'autres chercheurs à la même époque corroborent cette donnée-là, donc qui va un peu à l'opposé de ce qu'on entend dans les classes. Autre deuxième point données des recherches, c'est qu'on a pendant toute cette période des données qui montrent que l'identification des mots est extrêmement importante, que à peu près chaque mot est identifié, y compris chez les bons lecteurs. Vous avez sur votre gauche des temps de fixation, les positions des fixations oculaires, les temps de fixation, donc les bons lecteurs sont plus rapides, mais ils font également un certain nombre de pauses et quasiment ils fixent tous les mots pleins. Donc à nouveau, ça va à l'encontre de l'idée, on saute comme ça des grandes parties de texte et on devine de temps à autre. Troisième et dernier élément sur lequel je m'arrête une minute, c'est la question de l'importance de la conscience phonologique. Il y a dès les années 80 une masse de travaux qui montrent que cette conscience phonologique est positivement corrélée avec l'apprentissage de la lecture. Là, c'est une méta-analyse faite par un chercheur américain qui montre, j'ai pas relevé tous les travaux, il y en a plus, mais tous ceux-là sont des années 80 et qui montrent par contraste, vous ai indiqué les corrélations entre la lecture et un indice de développement, un quotient intellectuel. Vous voyez que dans quasiment tous les cas, la corrélation est nettement plus élevée en ce qui concerne les liens conscience phonologique et lecture. Donc à partir de là, bien sûr, on a eu tous les débats et tous les travaux qui consistaient à montrer qu'est-ce qui est cause de quoi, et qu'on a conclu en disant mais la causalité va dans les deux sens. travailler avec les enfants la conscience phonologique, ça va les aider à entrer dans la lecture, mais être lecteur, devenir lecteur, favorise la prise de conscience phonologique. Donc voilà, trois domaines dans lesquels, dans les années 80, on voit des avancées nettes de la recherche. Alors, à ce grand écart, la question se pose entre donc ce qu'on entendait dans les classes à Genève et ce que je pouvais lire. La question s'était posée à moi de savoir comment réagir, quoi faire. Et il me semblait que, enfin, je ne sais pas si c'était si clair pour moi il y a, dans les années 80, c'est ça, c'est la question de la rétrospective, mais il me semble que ce que j'ai fait à ce moment-là partait dans deux sens. En même temps, essayer de faire connaître les recherches des années 80 dont j'ai parlé, parce que c'est vrai qu'en français, il n'y avait quasiment rien, et c'est ce qui m'a incité à éditer cet ouvrage dont certains parmi nous, auxquels certains parmi nous ont participé, donc en 1989, lecteur. Qui était l'apprenti lecteur, et qui principalement, il y avait toute une partie du livre qui portait justement sur l'évolution de la conscience phonologique et les liens avec la lecture, et toute une autre partie qui portait sur une question aussi qui commençait vraiment à devenir importante, qui était la question de savoir est-ce qu'il y a des phases dans l'identification des mots, comment ça se passe chez l'enfant apprenant. Voilà. Alors, inutile de dire que ce livre n'a pas été très bien, ça a pas été salué très cordialement par certains partisans.
C'était ton livre de chevet.
C'était ton livre de chevet, mais pas de tout le monde, sûrement pas. Enfin, voilà. Donc, c'était une réaction. L'autre réaction, puisque je vous disais tout à l'heure que j'étais en charge de développer de la recherche dans une école et avec des enseignants, il m'a semblé dès le départ qu'il n'était pas question de laisser tomber tout l'acquis des recherches qui avaient montré l'importance de faire place au sens dans toutes les activités qu'on peut développer autour de la lecture. Et c'est pas parce qu'on avait probablement négligé les aspects d'acquis acquisition du code pendant une certaine période qu'il fallait complètement tourner la veste, hein, dans les discours en tout cas, peut-être pas, certainement pas vraiment dans les classes. Alors, ça m'a incité à ce moment-là, avec les enseignantes de la Maison des Petits, à chercher une situation didactique qui permettrait à la fois de conserver tout ce qu'on pouvait faire au niveau du développement de la compréhension, du passage de l'oral à l'écrit, des liens entre lecture et écriture, mais en même temps qui permettrait de travailler sur l'acquisition des correspondances graphème-phonème, sur la conscience phonologique. Et là, l'inspiration nous est venue d'un travail que probablement, en tout cas, les plus anciens d'entre vous connaissent, qui était le travail qui était conduit dans les années 70 par Christiane Kless, et entre autres en collaboration avec Jean Hébrard.
Laurence Lantin.
Dans l'ouvrage de Laurence Lantin. Cette situation m'était apparue comme vraiment intéressante, le travail que Christiane Kless faisait dans sa classe. Alors, je dois dire, ça c'est intéressant du point de vue des liens entre théorie et pratique. Moi, j'étais à la lecture de ce chapitre dans l'ouvrage de Laurence Lantin, convaincue qu'il y avait là quelque chose de très intéressant à essayer de mettre sous la loupe en situation de classe, mais j'ai eu du mal à convaincre les enseignantes de la Maison des Petits à cette époque, parce qu'encore une fois, elles étaient vraiment dans le discours de la devinette linguistique, et surtout, elles craignaient un passage trop précoce à l'écriture, parce que cette situation suppose que les enfants écrivent, dès 5-6 ans, et écrivent. Et là, j'ai aussi beaucoup appris dans l'évolution que nous avons pu faire ensemble, c'est que dans un premier temps, l'idée m'est venue d'inviter Jean Hébrard pour venir expliciter cette situation, l'avantage de cette situation, mais j'avais pas encore réussi à convaincre mes enseignants. Et c'est seulement le moment où nous avons invité Christiane Kless, qui a travaillé dans la classe avec les enseignantes de la Maison des Petits, que là, tout d'un coup, les visages se sont éclairés, elles en voulaient, et on a pu démarrer toute une série de recherches à partir de cette situation. Donc, Voilà la rétrospective. Alors, je passe maintenant rapidement aux années 90, où j'ai l'impression, c'est peut-être un peu trop optimiste, j'en sais rien, mais qu'il y a quand même nettement un début de rapprochement entre ce qu'on peut lire chez les chercheurs et les discours pédagogiques. Je considère que les ouvrages, j'en ai mentionné quelques-uns ici, qui ont été donc des ouvrages destinés plutôt aux formateurs et aux enseignants pendant cette période, sont plus équilibrés que ceux de la décennie précédente. Et là, j'ai indiqué une citation de Gombert qui, je crois, recouvre assez bien l'atmosphère de ces années 90 où là, on a un peu levé le couvercle et on commence à pouvoir à la fois s'intéresser au décodage sans forcément considérer qu'on est en train de faire un monumental retour en arrière, mais on peut bien sûr et on doit continuer de travailler sur la compréhension et sur tout ce qui touche à la production du sens. Alors, pourquoi ce rapprochement? Je crois qu'en gros, c'est lié aussi au fait que les thèmes des chercheurs sont devenus quand même un tout petit peu plus proches de ce que le terrain peut souhaiter ou de ce dont le terrain peut avoir besoin. Entre autres, je pense un bon témoin dans cette évolution, c'est pour moi, en tout cas, c'était le colloque de la Villette, où on commençait à voir qu'on pouvait se parler quand même entre les protagonistes de différentes options. Et là, j'ai listé quelques-uns de ces thèmes qui ont, je crois, facilité le passage. Il y a la question de la différenciation entre lecteur adulte et l'apprenant. On s'est vraiment intéressé fortement à l'apprenant et on a probablement cesser de faire ce qu'on avait fait un peu avant, d'une espèce de passage direct de qu'est-ce qu'on sait du lecteur à on le transpose en situation de classe. Je pense que toute la question de la place de la langue orale dans l'acquisition de la lecture est aussi un thème qui était en phase avec les questions qu'on peut se poser sur le terrain. La question des liens entre identification des mots et compréhension, qui est évidemment toujours actuelle. Liliane Sprunker-Charol en parlera aujourd'hui. Un regain d'études francophones, hein, parce que vraiment très très peu présente dans la décennie qui précède. Et puis les trois derniers points que j'ai indiqués en jaune sont les trois sur lesquels je m'arrêterai juste un petit peu plus longuement, soit donc les recherches en situation de classe, les relations lecture-écriture et l'intérêt pour les différences individuelles qui touchent vraiment de très près le terrain. Et je vais le faire à travers, donc en revenant sur cette situation que nous avons tirée, citation didactique que nous avons tirée à l'origine donc des travaux de Christiane Kless, qui est le texte de référence. C'est plus que la dictée à l'adulte, c'est toute la procédure qui va jusqu'à la production du commentaire par les enfants. Hein. Et il faut dire, ça aussi c'est intéressant, c'est que Christiane Kless, elle est revenue travailler un certain nombre de fois à la maison des petits avec les enseignantes. Et je crois qu'elle a assisté un petit peu à une évolution de cette situation que peut-être même vers la fin, elle ne reconnaissait plus vraiment. Hein? Alors, je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Donc, si je résume là, il ne faut pas que ça donne l'idée de quelque chose de très rigide hein, dans la démarche pédagogique. Mais en gros, c'est une situation donc qui, dure dans la classe environ pendant 3 semaines. Hein. Les enfants sont occupés à ce travail de façon assez concentrée, à raison d'au moins 3 fois par semaine, environ 30 à 40 minutes. Ça dépend. On s'arrête quand les capacités attentionnelles des enfants font défaut, mais qui comportent donc ces 5 étapes. On peut distinguer ces 5 étapes. Donc, expression orale d'abord, à partir de, donc d'un livre, ça pouvait être aussi à partir d'un événement vécu par la classe, mais de façon générale, c'était plutôt avec un livre, et entre autres, vous savez que Christiane Kless avait publié des livres spécialement destinés à cette procédure, parce que la littérature enfantine ne correspondait pas toujours, ne permettait pas toujours de faire ce travail approfondi d'hypothèses. Donc, un premier travail à partir de l'oral. Ensuite, il y avait une phase dans laquelle l'enseignant lisait le livre aux enfants.
Albums, hein. C'est des petits albums illustrés.
Oui, c'est des petits albums illustrés. Donc, le travail sur les hypothèses, c'est essentiellement à partir des images. Mmh. Bon, je pars peut-être trop du principe que tout le monde a connu cette phase, mais donc des albums illustrés, les enfants sont non lecteurs, j'ai indiqué, nous l'avons pratiqué en deuxième enfantine, donc c'est 5-6 ans, et en première primaire, c'est 7 ans, hein, c'est le CP, la première primaire c'est officiellement c'est le CP, c'est l'âge auquel on a. Officiellement, on commence l'apprentissage de la lecture, mais on l'a pratiqué avec des enfants peu plus jeunes. Donc, des hypothèses sur qu'est-ce que peut bien vouloir dire ce livre à partir des images, puis ensuite, donc, lecture du livre. Alors, une phase très importante après, c'est l'élaboration d'un texte de référence, c'est-à-dire que c'est une dictée collective à l'adulte dont l'aboutissement est un texte d'une certaine longueur qui souvent prenait au moins deux tableaux noirs, hein, si ce n'est trois. Donc l'histoire revue et commentée par l'ensemble de la classe.
Mmh. Avec un point important, si je peux t'interrompre, c'est que les enfants produisant ce texte qui raconte le livre sont obligés de raconter les images qui ne sont pas dans le texte.
Tout à fait.
C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas redire le texte tel quel. Ça peut en aucun cas être simplement une paraphrase de ce qui a été lu.
Et puis il y a beaucoup de choses qui peuvent être travaillées dans le passage de l'oral à l'écrit dans cette phase, puisque on n'écrit pas tout ce qu'on dit, et donc il y a une reformulation qui va intervenir. Et puis il y a toute l'observation que les enfants vont faire, évidemment, de la façon dont l'enseignant écrit le texte au tableau. Donc il peut s'arrêter, commenter autant de fois que nécessaire. Donc ça prend du temps, hein. Ensuite, nous avions une phase dans laquelle l'enfant devait dessiner un épisode de l'histoire. Là, c'était pour qu'il se remémore bien le sens de cette histoire et qu'il choisisse un aspect qui l'avait le plus intéressé pour pouvoir par la suite écrire un commentaire. Et là, il faisait un projet oral. Il disait à son institutrice, eh bien voilà, moi je veux dessiner et ensuite écrire si quand le petit garçon a son goûter d'anniversaire et que quelqu'un renverse un verre d'eau, etc. Et enfin, dernière étape, c'est celle de l'écriture du commentaire. Donc la consigne aux enfants était, maintenant vous allez écrire un commentaire à votre dessin. Vous pouvez le faire, on sait bien que vous ne savez pas encore bien écrire, hein, ni lire ni écrire, mais vous pouvez vous aider en allant chercher les mots dont vous avez besoin dans le texte de référence. Les enfants parlaient de texte de référence, hein, c'était devenu le mot consacré en classe. Et là, intervenait toute une série, donc un travail qui devenait individuel, chaque enfant avait son propre projet d'écriture, et cette phase au cours de laquelle nous avons greffé le dispositif
expérimental.
Expérimental, ce serait un grand mot, on est en situation de classe et on ne contrôle pas toutes les variables, mais nous avons observé de façon extrêmement fine, avec un observateur par enfant. C'était une époque où on avait les futurs enseignants genevois qui, dans leur formation, ils faisaient une recherche. On a observé comment les enfants se débrouillaient pour chercher ces mots dans le texte. On a observé avec détail aussi comment ils les copiaient, parce que c'était extrêmement instructif. Et toutes les relectures qu'ils faisaient en cours de route de leur projet pour savoir où ils en étaient. Alors, bien sûr, si je regarde cette recherche rétrospectivement, je suis très critique, même si je pense qu'elle nous a apporté beaucoup, mais peut-être pas sur ce qu'on souhaiterait aujourd'hui, en 2007, c'est-à-dire que sans point de vue comparatif, on pouvait pas vraiment juger des effets. D'abord, c'était pas toute une pratique, hein. C'était 4 fois ou 5 fois dans l'année, 3 semaines pendant lesquelles on travaille intensivement de cette façon. Mais il se passait d'autres choses dans ces classes, bien entendu. Donc on contrôlait pas l'ensemble de ce qui se passait dans les classes. Et surtout, on n'avait pas de moyen de dire, mais est-ce que on produit des effets supérieurs à d'autres types de pratiques? La seule chose qu'on avait comme point de repère, c'est que ces enfants, ils avaient été suivis par des bilans en cours de route, 4 fois, novembre, janvier, mars, mai de cette année-là, et qu'on pouvait juste vérifier qu'ils avaient progressé dans ces deux composantes qu'on a, sur lesquelles on a insisté beaucoup par la suite, où on insistait déjà passablement à l'époque, mais quand même un peu moins, dans la connaissance des lettres. Donc, même s'ils étaient dans un environnement où il n'y avait pas d'apprentissage systématique du code, il n'y avait pas d'exercice de conscience phonologique, on voit qu'en cours d'année, il y a une progression. Hein. Mais impossible de dire si elle était due essentiellement à cette situation ou à autre chose dans le travail des enseignants. Donc vous voyez quand même quelques limites. Alors, je prends la question maintenant, la deuxième question sur laquelle je voulais m'arrêter, c'est la prise en compte des différences individuelles. J'ai juste repris le même tableau que je viens de vous montrer, donc toujours sur ces 21 élèves mixtes, deuxième enfantine, première primaire, et j'ai simplement ajouté là en jaune les minima et maxima des résultats qu'ils avaient obtenus dans la connaissance des lettres et dans la tâche d'effacement de phonèmes. Vous voyez qu'à tous les points dans le temps, on a déjà des enfants qui étaient au maximum, hein, 22 points sur une épreuve qui comportait au maximum 22 points pour la connaissance des lettres, 16 points pour l'effacement de phonèmes. Mais dans le même temps, on a relativement peu de progression des minima. Vous voyez, sur la connaissance des lettres, un peu, on passe de 1 à 6, mais c'est pas énorme, fin d'année. Et puis sur l'effacement de phonèmes, quasiment rien. Hein. Donc, vu rétrospectivement, c'est des résultats qui devraient nous faire l'hypothèse que peut-être on cherchait beaucoup à différencier l'enseignement à cette époque, mais qu'on n'a pas été assez loin, qu'il y avait quelques enfants à risque dans ce groupe avec lesquels on aurait dû travailler systématiquement.
Je peux commenter l'effacement de phonèmes.
L'effacement de phonèmes, oui, je peux commenter. C'est juste, donc c'est une des tâches de... merci de préciser quand ça peut ne pas être clair. Donc, dans les différents exercices qu'on peut faire avec des enfants pour voir dans quelle mesure ils peuvent découper la chaîne orale en unités, entre autres la plus petite, c'est-à-dire en phonèmes, on peut leur proposer des mots ou des pseudo-mots et leur demander d'enlever ce qu'on entend tout au début. Par exemple, si je te dis « table », qu'est-ce que ça va donner si j'enlève ce qu'on entend tout au début? Et l'enfant doit être capable de dire « able ». Hein? Voilà, donc ça a un prototype d'une tâche d'effacement de phonèmes. Alors, c'est pour insister sur ces différences individuelles, parce que je crois qu'on n'est pas sorti de l'auberge avec la différenciation de l'enseignement. Presque 10 ans plus tard, à fin de la décennie, de nouveau sur un groupe d'élèves genevois de deuxième enfantine, vous voyez que les différences individuelles sont toujours aussi importantes. On a là dans des épreuves, alors effacement de syllabes, c'est un peu plus simple, mais des enfants qui vont de 0, vraiment être pas encore capable du tout de découper le langage oral jusqu'à performer au maximum.
À quelle époque de l'année, c'est ça?
Alors ça, c'était vers la fin de la deuxième.
Donc fin de grande section.
Fin de grande section, donc encore des enfants qui n'ont absolument aucune conscience phonologique à l'époque, qui ne connaissent pas du tout de lettres et qui ne peuvent pas lire des mots, mais ça c'est moins extraordinaire puisqu'ils ne sont pas censés avoir appris à lire à ce moment-là. J'ai noté aussi un résultat qui était donné par Guagou, qui porte sur le temps moyen d'identification des mots, c'est une autre variable. Vous voyez que pour un groupe total de CE2, 800 millisecondes en moyenne pour l'identification des mots. Si vous allez voir ce que ça donne, si vous prenez le 20% des élèves qui sont les meilleurs compreneurs de la classe, vous divisez par deux. Mais si vous prenez le 20% qui ont le plus de difficultés, les moins bons, vous multipliez par 6. Hein. Donc, des différences individuelles vraiment extrêmement importantes, et c'est un phénomène très robuste. Hein. Voilà. Alors, pour revenir, alors les différences individuelles, là, j'ai juste illustré ce qui se passe quand on s'intéresse à ces composantes maintenant bien connues de l'apprentissage de la lecture, identification des mots, connaissance des lettres, conscience phonologique. Dans la recherche de la maison des petits, dont j'ai déjà parlé, donc la situation du texte de référence, on a pu aller un petit peu plus loin en qualitatif, je dirais, c'est-à-dire que à ce moment-là, on se posait la question des modèles, on disait en stade, ce qui était, je crois, un mot beaucoup trop fort par rapport à la nature des phénomènes, mais on va dire au moins en phase, enfin la trace développementale des procédures d'identification des mots. Alors, dans cette situation, en classe, on pouvait se demander comment s'y prennent les enfants pour trouver dans le texte de référence les mots dont ils ont besoin pour leur projet d'écriture. Et là, vous voyez qu'il y a, j'ai fait la liste des 7 principales stratégies que nous avons pu observer. Alors, c'est donc assez divers. Ici, elles sont dans un ordre plus ou moins de complexité croissance. Oui, de complexité croissance, c'est-à-dire les stratégies les plus élémentaires, on les a plus observées en début d'année, et puis elles ont eu tendance à disparaître. Ce qu'on a appelé copie aveugle, c'était des enfants qui n'avaient encore aucune idée du principe alphabétique. Donc, dans cette tâche, probablement à ce moment-là, je dirais maintenant aussi d'un point de vue critique, peut-être qu'on les a mis dans une situation où on aurait dû encore attendre quelques mois pour les mettre, parce que eux, ils prenaient au hasard un mot dans le texte et puis ils copiaient en suivant des mots. Et quand on leur demandait « qu'est-ce que tu as écrit ?», ils donnaient leur projet personnel. Donc, du coup, évidemment, il n'y avait aucune correspondance entre ce qui avait été écrit et ce qu'ils pensaient avoir écrit. Hein. Donc, des copies aveugles. Mais les autres stratégies, je pense, montraient toutes des étapes dans ce cheminement que les enfants peuvent faire dans leur façon, dans leur stratégie pour finalement arriver à reconnaître ce qu'on a appelé reconnaissance non médiatisée. C'était le moment où finalement les choses allaient extrêmement vite, les enfants ne verbalisaient plus rien, il n'y avait plus de tâtonnement, et ils trouvaient le bon mot. Donc on pouvait faire l'hypothèse qu'à ce moment-là, ils avaient déjà stocké ce mot dans leur mémoire lexicale et qu'ils pouvaient extrêmement facilement le retrouver dans le texte. Et les copies voulues, ça c'était pas du tout anticipé. Et c'est probablement là aussi le signe que si on avait bien différencié notre enseignement, ce sont probablement des enfants qu'on n'aurait pas inséré dans ce groupe parce qu'ils étaient quasi lecteurs. Et pour eux, ce qui paraissait le plus simple, comme ils savaient que leurs commentaires portaient sur une phase de l'histoire, ils allaient relire, ils prenaient un bon bout de temps pour relire presque tout le texte. Puis quand ils avaient pointé l'épisode, eh bien, ils copiaient la phrase ou les phrases qui correspondaient à cet épisode. Mais la différence avec les copies aveugles, c'est que ces enfants pouvaient se relire et que ce qu'ils avaient écrit correspondait à leur projet d'écriture. Voilà. Donc, ça, c'est plutôt, je pense, un des aspects positifs des recherches de cette époque. On a pu aller dans plus de détails. On a pu remettre un peu en question ces modèles en stade. Je vous montre un vieux graphique. Il est de l'époque. Il est justement pas très clair, mais c'était le seul que j'avais en français. Je ne peux pas m'étendre sur la méthode, mais avec des méthodes factorielles, d'analyse factorielle des correspondances, on a pu essayer de savoir comment ces stratégies étaient liées entre elles, si elles étaient proches ou pas proches, et on pouvait, dans le même espace, projeter le profil des enfants à chaque moment où on les avait observés dans le temps. C'est-à-dire que,
en fait,
dominante. Exactement. Un enfant, il avait toujours un profil de stratégie, plusieurs stratégies. À un moment donné dans le temps, il pouvait faire quelques localisations seulement dans le titre, mais en même temps, il commençait à utiliser une stratégie phonographique. On l'avait observé dire « ah, 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 ah ». en allant vers le texte parce qu'il voulait écrire ananas, par exemple, etc. Donc ce profil, hein, chacun des points dans des petits carrés et des rectangles représente la dominance, en quelque sorte, du profil oui. des enfants. Et comme on les avait examinés 4 fois, les couleurs, vous devez les voir à peine, mais si vous promenez le profil, par exemple, cet enfant-là, hein, c'est la première fois, il a une dominance de stratégie aveugle. Ensuite, il utilise essentiellement le titre, presque seulement ça, parce qu'il est justement proche de la localisation de cette stratégie dans cette analyse vectorielle. Et puis, on le retrouve les 2 dernières fois où il est devenu quasi-lecteur, hein, où il fait soit des copies voulues, soit il reconnaît les mots extrêmement vite. Mais par opposition... Vous voyez ici un enfant qui, lui, a utilisé surtout le contexte. Il allait chercher les mots à la fin du texte. Il nous disait, ça doit être par là, parce que je sais que renverse le verre, c'est à la fin, hein, s'il cherche un verre. Et puis ensuite, beaucoup de stratégies liées au code. Donc cet enfant-là, comme on avait compris que quand on écoute les mots, ça nous dit quelque chose de qu'est-ce qu'on devrait trouver comme lettre dans ces mots. Donc il faisait essentiellement ça. Et puis vers la fin donc, de l'année, on le voit rejoindre ce cadran des quasi-lecteurs. Hein. Donc je ne peux pas aller dans le détail, mais ça nous avait permis à l'époque de montrer que tous les enfants n'utilisaient pas les mêmes procédures, la même évolution dans le temps. Il y a un exemple, j'en ai quand même indiqué un, d'un enfant qui progresse quasiment pas, hein, comme vous le voyez ici à travers cette situation. C'est l'enfant qui est dessiné en vert. Hein, il navigue autour de stratégies qui sont encore relativement peu évoluées. Donc, de ce point de vue-là, je pense une avancée qui... commençait de nous donner quelques instruments pour différencier l'enseignement. On n'a pas été assez loin, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais on pouvait avoir une base d'observation assez stable. Alors, dernier point que je voulais aborder sur cette décennie, c'est la question des relations entre lecture et écriture. Ce qui faisait la richesse de ces procédures utilisées par Christiane Claes, c'était effectivement le fait qu'on avait... une situation qu'on a appelée complexe, justement parce qu'elle doit faire interagir le sens, production du sens, et nécessite l'utilisation des connaissances du code et une certaine conscience phonologique pour découper les mots, soit pour les chercher, soit pour les copier, mais aussi parce qu'il y avait en même temps des activités de lecture, chercher les mots dans un texte, toutes les relectures que l'enfant fait, hein, parce que c'était à ce moment-là de l'apprentissage, il faut bien voir que c'est laborieux. On avait des enfants qui, quand ils avaient trouvé le mot, alors parfois c'était pas correct, hein, mais aidé par l'enseignante, ils finissaient par pouvoir écrire le bon mot. Souvent ils copiaient lettre par lettre, donc ça les obligeait vraiment à faire un découpage. Et surtout ils se relisaient extrêmement fréquemment, parce qu'il faut pas faire perdre le fil de ce qu'on est en train d'écrire. La question qu'on leur posait toujours, c'est maintenant tu as besoin de quel mot, tu vas chercher quoi. Donc il fallait qu'ils relisent ce qu'ils avaient écrit. Donc c'est de ce point de vue-là, je crois que c'est vraiment extrêmement intéressant. Alors, de façon générale, c'est vrai que je pense que pendant cette décennie, on a commencé à insister pas mal sur l'intérêt des relations entre lecture et écriture. Je pense que on manque encore de mais peut-être que tu vas nous éclairer sur ce point. Je disais là, il faudrait faire un travail historique comparatif, surtout entre différents pays, parce qu'on voit que c'est un mouvement qui... Alors moi, je fais pas l'historienne à côté d'Anne-Marie.
J'ai trouvé des choses.
Mais je pense que je vais apprendre plein de choses. Mais là, j'avais juste indiqué quelques points de repère. Donc en France, on peut sûrement remonter encore plus tôt dans l'histoire, mais il y a déjà dès le XVIIIe siècle des gens qui disent il faut écrire très très vite. Il y a des mouvements en Allemagne, entre autres, encore à l'heure actuelle, il y a en Allemagne une utilisation de méthodes, de cette Schreiblesemethode, où on commence par écrire. Et puis nous, dans nos travaux, on avait aussi été pas mal inspirés par des travaux qui viennent des États-Unis. États-Unis sur ce qu'on a appelé les écritures inventées. C'était peut-être un peu une traduction littérale un peu malheureuse, mais qui c'était une position qui avait été promue par Carol Chomsky, et où elle considérait qu'il faut faire écrire les enfants très vite, dès qu'ils ont quelques connaissances, sur même seulement sur les noms des lettres, peu importe si c'est pas encore le son des lettres, ils peuvent commencer de produire.
C'était avant Emilia Ferrero.
C'était
ça.
Avant Emilia Ferrero, tout à fait, c'était avant Emilia Ferrero. Voilà. Alors, l'importance de l'écriture précoce dans les années 90, je crois que il y a tous ces points qui me paraissent importants. Hein. Ça permet justement à l'enfant de réaliser que l'écrit code la parole. Donc pour la compréhension du principe alphabétique, toutes les activités qui comportent des phases de dictée à l'adulte dans des situations qui peuvent être diverses, je pense, sont extrêmement intéressantes. Il peut, donc, comme je l'ai déjà dit, prendre conscience des problèmes de segmentation, toutes ces relectures qui interviennent dans le processus d'écriture. Maintenant, du point de vue de la recherche, on a des travaux qui montrent qu'il y a des corrélations justement entre ces écritures inventées, donc là c'est plutôt aussi des travaux sur l'anglais, et la conscience phonologique, des relations, à tel point que même des épreuves d'écriture inventées sont devenues des tests de conscience phonologique. Hein, donc il y a quand même une étroite relation. Et puis, bien sûr, je crois qu'il ne faut pas le négliger quand on travaille sur le terrain. C'est motivant, c'est un investissement important de produire son texte. C'est peut-être plus motivant que des exercices très spécifiques. Alors, malgré tout, donc, vous voyez une avancée, je crois, dans les années 90, mais encore des lacunes. Et entre autres, bon, au niveau des recherches en situation de classe, des lacunes qui viennent en particulier du fait que, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on n'a quasiment pas d'études comparatives. C'est-à-dire que on produit des choses dans les classes qui paraissent intéressantes, on décrit ces choses intéressantes, mais on n'a pas de dénominateur commun pour pouvoir dire mais est-ce que c'est efficace ou pas efficace, hein. Il y a, à ma connaissance, dans les années 90, une seule étude comparative, et encore, on pourrait aussi la revisiter de façon critique à l'heure actuelle. Au niveau des différences individuelles, je vous l'ai dit aussi, il y a des lacunes dans le sens où on aurait pu aller plus loin vers la différenciation, hein, et surtout alors sur le fait que on parle de débutants lecteurs, donc je n'ai parlé qu'exclusivement de toute la question de l'identification des mots, mais au niveau de la compréhension, il y a peu d'études sur les différences individuelles au niveau de la compréhension. Et enfin, les relations lecture-écriture, je trouve que dans les approches des années 90, il y a peut-être manque de clarification du niveau sur lesquels on veut faire la comparaison. C'est pas la même chose de s'interroger, de savoir si apprendre à écrire les lettres, est-ce que ça favorise le fait de les reconnaître ou vice versa, que de savoir si écrire des mots, ça favorise la lecture et vice versa. Et alors, si on se pose la question au niveau beaucoup plus complexe, des processus plus complexes, est-ce que produire des textes, ça favorise la compréhension de la lecture des textes, c'est encore une autre question. Donc je crois que
c'est marrant parce que l'unité phrase a disparu.
Ah oui.
Alors que je dirais que l'unité phrase a été l'unité numéro un de toute la tradition pédagogique des années 30.
C'est vrai.
Aux années 50.
Mais j'aurais envie de te répondre, il me semble que Jean Hébrard m'a dit une fois je sais plus, une petite phrase, une seule phrase, et il m'a dit, tu sais, ça c'est déjà un texte. C'était une phrase de quelques mots. Alors, j'ai retenu l'idée que
le texte inclut phrase.
Voilà.
D'accord, la phrase.
Alors, je passe maintenant au 21e siècle. Je crois que, pour moi, ce qui est significatif d'une évolution, c'est que on commence enfin à avoir quelques études comparatives entre différentes méthodes. C'est donc le début d'un moment où on peut faire ce qu'on appelle des méta-analyses, c'est-à-dire prendre toutes les recherches sur une même thématique et voir si leurs résultats se corroborent. Est-ce qu'ils vont dans, elles vont dans le même sens ou pas? Alors, inutile de dire que malheureusement pour nous, ces études sont anglo-saxonnes. Je viens de mentionner qu'il n'y a, pas de travaux quasiment en langue française vraiment comparatifs. Donc on a beaucoup compté sur ces études méta-analyses américaines. Donc on est sorti une en 2001, qui était donc des études qui ont été faites à la demande du Congrès américain, donc d'une certaine ampleur.
Elles sont citées dans le document que la vieille scientifique a fait.
Parce que vous les trouvez tout ça sur Internet. C'est un gros rapport, mais on peut le trouver sur Internet. Alors, j'ai schématisé beaucoup, mais vous voyez que... Alors, quand on fait une méta-analyse, qu'est-ce qu'on fait? On fait une revue de littérature aussi exhaustive que possible, et on se donne des critères pour admettre ou pas les études dans la méta-analyse. Il faut qu'elles aient une certaine qualité scientifique. Donc, c'est ce qu'ont fait ces auteurs. Ils ont passé au tamis toutes ces recherches pour, finalement, en retenir donc 52... qui permettait de dire quelque chose d'une comparaison entre des programmes qui comportent un enseignement sur la conscience phonologique comparé à des programmes qui n'en comportent pas. Mais attention, parce que les programmes qui n'en comportent pas, ils varient entre eux, et puis la façon dont la conscience phonologique est enseignée aussi. Mais disons qu'ils ont pris des précautions pour n'insérer en principe dans ce corpus que des études qui pouvaient être comparées entre elles. Alors, qu'est-ce qu'ils trouvent? C'est que il y a un effet de supériorité des méthodes qui enseignent la conscience phonologique sur la conscience phonologique. Alors ça, c'est encore heureux. Heureusement que le domaine sur lequel on travaille produit des effets. Mais ils trouvent un effet positif sur la lecture de mots et également sur la compréhension, probablement médiatisée à travers les meilleurs résultats sur la lecture de mots, sur l'identification des mots. Deuxième domaine dans lequel ils ont donné des conclusions concerne, alors là vous voyez qu'il y a déjà moins d'études, même en anglais, 34 études retenues qui montrent un effet positif de l'enseignement phonique, c'est-à-dire toutes de nouveau. C'est pas un ensemble totalement homogène, mais ce sont des programmes dans lesquels il y a un enseignement systématique du code et des correspondances graphème-phonème comparé à des enseignements qui n'en comportent pas. Et là, vous voyez que les effets sont positifs sur la lecture de mots, sur l'orthographe de mots et sur la compréhension.
Oui, je voulais dire qu'il n'en comporte pas, ça ne veut pas dire que dans la classe, il n'en a pas forcément. Mais ça veut dire que ça n'est pas affiché comme une procédure systématique à l'emploi du temps, répertoriée.
Exactement. Voilà. Alors, très intéressant maintenant, il y a une méta-analyse toute récente qui date de l'année passée, qui a été faite cette fois par des Anglais. Vous savez, les Anglais, ils aiment bien en général reprendre ce qui a été fait aux États-Unis et le réexaminer. Alors, je la trouve très intéressante, cette étude, parce que je relèverai deux points. Ils ont considéré que pour réellement pouvoir comparer entre elles des études, il ne fallait conserver dans les méta-analyses que les études qui sont dites randomisées, c'est-à-dire des études dans lesquelles on a attribué les élèves à un programme plutôt qu'à un autre au hasard, et non pas en fonction
l'investissement de l'enseignant, sa militance pédagogique pour tel programme, etc.
Exactement. Donc ça, c'est très intéressant. Donc vous voyez, il y a beaucoup moins d'études déjà, parce que la plupart des études de la méta-analyse américaine ne satisfaisaient pas cette condition.
Oui, c'est des volontaires.
Mais ils ont eu une deuxième attitude que je trouvais aussi extrêmement intéressante, c'est d'aller revoir tout ce qu'on appelle la littérature grise, c'est-à-dire des travaux qui n'ont pas été publiés dans des revues à comité de lecture, mais qui se trouvent plutôt dans des bases de données de littérature grise, des rapports non publiés, etc., mentionnés parfois par les chercheurs. Pourquoi ont-ils fait cela? C'est parce que ils suspectaient que dans les revues de questions, dans la littérature scientifique, on a une tendance énorme à ne pas publier des recherches qui montrent qu'il n'y a pas d'effet, hein, qu'on ne peut rien conclure. Et sur le plan statistique, c'est évidemment méthodologique, ça pose problème, mais dans le fond, hein, s'il s'avérait que finalement, entre une certaine méthode et une autre, les deux produisent des effets qui sont comparables, ces résultats sont tout aussi intéressants pour l'éducation. Alors, il faut dire qu'ils ont repêché en fait une seule étude comme ça. Hein, donc, il n'y en avait pas beaucoup de toute façon, mais je trouvais le principe intéressant. Alors, qu'est-ce qu'ils trouvent ? Ils courent confirmation de l'étude américaine sur la supériorité des approches phoniques. Alors, c'est important. Hein. Avec toutefois, il faut même le relever, que l'effet est un effet qui améliore les performances de 12%. Donc ça nous dit bien qu'il y a une supériorité des méthodes phoniques, mais évidemment ce n'est pas l'ensemble du paysage, et qu'il y a toutes sortes d'autres variables qui viennent contribuer à l'efficacité d'une méthode. Donc je crois qu'il faut garder ça en tête, c'est extrêmement important. Par contre, sur 4 études, il n'y en reste plus que 4, ils ne trouvent pas d'effet de supériorité des méthodes phoniques sur la compréhension. Donc c'est plus restrictif l'effet quand on contrôle mieux les études. Et enfin, ça me paraît un point extrêmement important, il y a, on va dire dans le monde, parce que je ne pense pas qu'il y ait des études dans des langues un peu plus éloignées de nous, des études systématiques qui combineraient des méthodes, mais je ne connais pas l'histoire de
maintenant,
l'éducation chinoise.
Maintenant, il y en a pour le Japon.
Et au Japon,
Christian Galland veut venir.
Mais là, donc, 3 études seulement qui ne montrent pas d'effet significatif quand on compare les méthodes phoniques dites synthétiques et les méthodes phoniques dites analytiques. Donc, vous voyez que sur cette question, hein, pour l'instant, il faut s'en tenir à l'idée qu'il est possible, hein, que dans ces cas-là, une méthode ou l'autre produise des effets très similaires. Oui, alors je ne les ai pas lues encore.
Elles disent
vont
quoi
dans le même sens ou bien qu'ils vont...
Elles disent quoi, le contraire ?
Qui disent le contraire. Alors voilà, vous voyez l'état. Je crois que c'est vraiment un domaine qui s'ouvre maintenant. Ouais.
Ah, faut revenir en arrière une seconde. Ils veulent voilà.
Ah. Ouais, c'est là aussi on le trouve sur Internet. Hein, ce rapport. Torgerson,
ouais. Brooks. Mais tant qu'on n'a pas d'analyse de classe, moi j'ai. Enfin bon, ouais. Je suis très.
Voilà. Alors.
Réservé.
Juste un détour, mais je vais le faire court parce que je vois que le temps avance et je voudrais quand même arriver juste à ma conclusion. Je voulais juste dire, on a à l'heure actuelle les bases au niveau des recherches et de la théorie qui s'ensuit pour considérer que même si on n'a pas tellement d'études qui montrent la supériorité des méthodes phoniques encore, que c'est assez logique par rapport ces résultats vont dans le sens de ce qu'on peut attendre par rapport aux études fondamentales à l'heure actuelle. Et entre autres, il y a un chercheur américain qui est Perfetti, qui postule maintenant l'existence d'un principe phonologique universel.
Même pour les langues non alphabétiques.
Même pour les. Alors justement, je passe vite, mais ce qu'il montre, il a montré, c'est quand même extrêmement intéressant, c'est que vous connaissez l'effet Stroop, sûrement.
Je redis. Voilà. Quand on voit le canard sur lequel il est écrit poule. C'est ça?
Par exemple,
le dessin d'un canard sur lequel il est écrit poule, le moment où un lecteur expert lit des chiffres, enfin lit plus exactement, reconnaît poule en même temps, voire plus vite que le dessin.
D'où l'interférence. Mais à l'origine, l'effet Stroop, c'est sur les couleurs.
C'est pour les couleurs. C'est-à-dire qu'on écrit rouge en bleu.
Le fait que quand on doit dire seulement la couleur, on vous demande de dire l'écriture est de quelle couleur, l'encre est de quelle couleur. Mais quand vous tombez sur rouge qui est écrit en bleu, il y a un effet d'interférence qui fait que ça rallonge votre temps de réaction parce que vous avez lu.
Si
que,
vous êtes lecteur.
Si vous êtes lecteur.
Bah, voilà, voilà. Non. C'est ça qui permet de discriminer voilà. les.
Alors, ce qui est très intéressant, là, je trouve, dans les résultats de Perfetti, c'est que, en chinois, non, on obtient un effet Stroop en chinois. On peut dire, bon, c'est pas vraiment extraordinaire, mais on obtient un effet Stroop sur des homophones, c'est-à-dire que, donc, quelque part en chinois, rouge se dit hong avec le ton 2, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, je ne peux pas le faire, mais en même temps, exactement le même mot, phonologiquement parlant, avec le même ton, veut dire large. Mais bien sûr, le signe est complètement différent. Hein. Et quand vous faites percevoir le signe qui veut dire large, il y a un effet d'interférence qui vient du fait que
on entend
le mot, il y a la mémoire phonologique est activée et qu'il y a interférence. Donc ça, il a fallu ces comparaisons sur des langues qui sont pas alphabétiques pour qu'on arrive à montrer l'importance de cet aspect phonologique. Alors pour Perfetti entre autres, mais je crois que la conclusion de tout ça, qu'est-ce qui est important, c'est que ce qui est important dans l'apprentissage de la lecture, c'est que l'enfant comprenne la nature du système d'écriture. Donc vous voyez qu'on n'est pas du tout en train de revenir au simple béaba, j'ai envie de dire, d'apprendre des choses automatiquement. Ça va au-delà. Ça veut dire apprendre comment le système d'écriture code la langue orale. Et que ce principe alphabétique, c'est un principe abstrait. Parce que les langues diffèrent et l'apparence visuelle de l'écriture ne dit rien ou pas grand-chose du principe quand on ne connaît pas l'écriture. Et dans cet article de Perfetti, il y a ce petit schéma que je trouve très illustratif. C'est quand on voit ça, je ne sais pas ce que vous en pensez, peut-être vous vous dites, bon, c'est assez proche, peut-être que c'est la même langue, qu'est-ce que c'est? Bah, en réalité, c'est très, les trois graphismes sont très différents. Tout en bas, enfin, les trois sont des syllabes. Il s'agit de syllabes. Tout en bas, c'est un caractère chinois. Et il se trouve qu'en même temps, c'est un mot monosyllabique. La graphie du milieu, c'est un caractère japonais, mais du système syllabique japonais. Hein, le kana, dans lequel les enfants souvent apprennent à lire. Donc, c'est 46, oui, toujours apprennent.
Et 46
et les femmes syllabes. Les femmes, oui. 46 syllabes, donc... autre chose, vous voyez. Et puis, tout en haut, c'est une syllabe en coréen. Et le coréen est une langue alphabétique. Donc, en fait, vous avez trois lettres, hein, si on pense par rapport à nous, mais qui sont, on écrit en carré hein, dans cette langue. Donc, on positionne les lettres autour d'un carré. Je ne sais pas si ça va de gauche à droite ou de droite à gauche. Donc, vous voyez, c'est ça que l'enfant doit comprendre. Le principe alphabétique, c'est comment... marche ce passage de la langue orale vers la langue écrite. Hein. Et c'est encore autre chose. D'apprendre le code favorise ce passage, mais ça va au-delà d'apprendre simplement un code. Alors, pour conclure, de ces recherches comparatives, je crois que pour le moment, je crois que je vous l'ai bien montré, on ne connaît pas assez de choses. On n'a pas énormément d'éléments. Je pense que l'élément le plus stable, c'est celui de la supériorité des méthodes phoniques versus les méthodes non phoniques, mais aller au-delà, et ça c'est peu de choses hein, pour pouvoir tenir un discours sur ce qu'on devrait pratiquer en classe. Alors, il nous manque beaucoup de choses. Il manque des études sur l'apprentissage en français, ça bat de soi, parce que c'est quand même un domaine dans lequel la spécificité des langues joue un rôle. Il y a bien sûr des difficultés méthodologiques, je dirais même éthiques, à ces études comparatives. Hein. Le fait de randomiser les études, c'est pas éthiquement, je crois, dans passablement de milieu, c'est pas toujours jugé comme quelque chose de correct. Si on fait l'hypothèse qu'une méthode est moins performante que l'autre, hein, c'est extrêmement délicat. Et puis, dernier point là, et c'est, je crois, déjà une réaction d'Anne-Marie tout à l'heure, Ce qu'on ne sait pas faire maintenant, c'est définir un peu plus finement les méthodes. Je pense que l'opposition globale phonique a vraiment vécu. Il faut qu'on aille voir avec beaucoup plus de détails comment on peut analyser ce qui se passe dans les classes. Et là, j'ai juste indiqué au moins. Donc pour moi, si vous voulez, l'analyse de méthode, maintenant, c'est quelque chose qui devrait être multidimensionnel, pas juste une dichotomie, hein, globale ou phonique ou d'autres dichotomies, peu importe. Mais on devrait regarder ce qui se passe en classe avec sous l'angle de plusieurs dimensions. Et essayer de trouver des façons de nouveau de juger le poids respectif de chacune de ces dimensions. Alors, une des dimensions, c'est certainement la relation entre l'oral et l'écrit. Est-ce qu'on met l'accent mis que sur l'écrit? Ce serait les méthodes idéo-visuelles. Je pense qu'on voit plus beaucoup ça dans les classes maintenant. Mais c'est un continuum et il y a une variété. Le sens du traitement de l'information, est-ce qu'on met l'accent sur la synthèse ou sur l'analyse? On a vu tout à l'heure que c'est peut-être secondaire, mais encore faudrait-il le vérifier un peu plus. Une troisième dimension, c'est le poids qu'on va donner au traitement des différentes unités linguistiques. Est-ce qu'on travaille beaucoup sur les graphèmes, sur les plus petites unités, ou au contraire, quasiment pas et beaucoup au niveau des textes. Les caractéristiques de la situation didactique, est-ce qu'on met l'accent sur des exercices, on en fait plus ou moins, ou au contraire sur des situations complexes, comme celle dont j'ai tiré mes illustrations aujourd'hui. Et puis, une cinquième qui est effectivement la relation entre lecture et écriture. Est-ce que l'accent est mis sur la lecture ou uniquement sur la lecture avec en séquence vraiment avec l'écriture, ou bien est-ce qu'on a ces situations qui te permettent de travailler les deux? Donc je crois que là il y a vraiment, on a des progrès à faire pour essayer, si on veut faire de la recherche et comparer des méthodes, de savoir les analyser plus finement. Alors les défis, hein, je crois que dans le pour moi, maintenant, vu comme ça, une perspective d'environ 30 ans, je pense que je souhaiterais qu'on voit l'enseignement de la lecture, non pas comme l'idée est-ce que tel et tel enseignant applique telle et telle méthode, mais sous l'angle de professionnels qui sont capables de connaître l'ensemble des composantes qui régissent cet apprentissage et qui sont capables de, dans leur classe, de les agencer d'une façon équilibrée, d'une façon dynamique, d'une façon différenciée, puisqu'on a vu l'importance des différentes individuelles. Alors, autant dire que je pense que, bien que la recherche ait beaucoup avancé en 30 ans, qu'on est encore loin de pouvoir réellement complètement fonder une position comme celle que je viens d'énoncer. Et pourquoi? Parce que je crois qu'on a besoin maintenant de modèles d'ensemble sur les questions d'apprentissage de lecture. On a beaucoup étudié les composantes, mais prises isolément, et dans la classe, c'est pas comme ça. On a besoin de travaux qui prennent en compte les différences individuelles plus largement. On les a surtout constatées, mais je pense qu'on les a pas assez exploitées dans la pédagogie différenciée. Et puis, d'une analyse fine des méthodes, comme je l'ai montré juste précédemment. Et enfin, je crois qu'il faut effectivement pouvoir développer des recherches expérimentales comparatives. Elles sont difficiles à faire. Il faudrait probablement les conditions que j'ai indiquées ici.
Ça, c'est les revendications. Notez-les.
Voilà. Écoutez, je pense que c'est évident. Ces études-là, elles n'auront de sens que si on les fait avec une certaine ampleur. Et tant qu'on... je pense que dans ma carrière, j'ai bricolé dans une petite école avec quelques enseignants avec qui j'ai pu travailler. Mais c'est sûr que... on n'a pas fait d'études comparatives parce qu'elles n'étaient pas en notre pouvoir. Hein. C'est vraiment, je crois, des études qui doivent prendre une certaine ampleur, et je pense qu'il nous faudrait des programmes internationaux. Je veux dire, il faut aller... PISA fait des diagnostics, mais si on voulait aller plus loin, il faudrait qu'on ait...
Tu peux dire un mot sur la participation des enseignants à la recherche? Qu'est-ce que tu entends par là?
Oui, alors j'ai mis institutionnellement admise parce que Moi, j'ai vécu une période que j'ai trouvée extraordinaire à la maison des petits, que souvent mes collègues français étaient assez admiratifs des conditions de travail de l'époque.
Jalousie.
C'était une petite école, mais dans laquelle, dans les années 90, on avait un poste supplémentaire par rapport au nombre de classes, qui était le poste qui permettait de faire le lien entre la recherche et l'enseignement. Donc, à tour de rôle, les enseignantes de cette école ont pu prendre ce poste et participer plus directement à la recherche, y compris au dépouillement des données, et puis à l'écriture aussi de ce qu'on avait pu mettre en... Donc c'était institutionnalisé. Mais j'ai malheureusement, j'en étais extrêmement triste, j'étais plus co-directrice de la maison des petits au moment où ça s'est passé, mais dans les coupures budgétaires des années 2000, ce poste a passé à la trappe. Et il n'y a plus, à l'heure actuelle, dans le canton de Genève, aucun poste de ce type. Voilà. Donc, je crois que là, pour moi, en tout cas, ces recherches n'auraient pas été possibles sans cette collaboration étroite et institutionnellement reconnue entre les enseignants et les chercheurs.
Voilà. Merci, Laurence. 5 minutes de questions, pas plus, pour des éclaircissements, pas pour une discussion, s'il y a besoin. Mais c'était très, très clair. Donc, peut-être il n'y a pas besoin de... question d'éclaircissement. J'ai vu qu'Annie Feffan venait d'arriver, c'est elle qui a été responsable du dossier de la veille scientifique, donc on en redira deux mots tout à l'heure. Bon, ben peut-être on enchaîne. Oui, si quand même. Voilà.
S'il vous plaît, j'avais juste deux petites précisions à vous demander. Dans l'expérience que vous avez conduite...
Est-ce que vous pouvez vous présenter pour l'enregistrement ?
Excusez-moi. Geneviève Maroubi, je suis maître de conférence à l'UFM de Créteil. Je voulais vous demander, oui, dans l'expérience que vous avez conduite, comment les enfants apprenaient-ils à lire à côté des situations d'écriture ? La deuxième question, c'est comment êtes-vous passé dans l'expérimentation que vous nous avez présentée, en fait, dans la recherche anglaise, de 12 à 4 études randomisées. Donc, les critères qui avaient prévalu à ce choix de 4. Et puis, enfin, c'est une remarque simplement par rapport aux différentes situations que vous décrivez de recherche à conduire. Moi, il me semble qu'il y a une dimension importante à mettre en avant. C'est rechercher des situations d'apprentissage explicite par rapport à l'apprentissage implicite. Mmh,
tout à fait. Je reviens pas sur ce point. Je suis absolument d'accord avec vous. J'aurais pu aussi le mentionner. Alors, les deux premières questions rapidement. À la maison des petits à l'époque, comme je vous l'ai dit, donc il y avait pas de manuel de lecture. Donc ce qui se passait en dehors de ces sessions, de textes de référence, c'est que les enfants partaient de la littérature enfantine c'était une lecture collaborative entre l'adulte et l'enfant. Et bien entendu, quand je dis il n'y avait pas d'apprentissage systématique du code. C'était quand même des classes où l'alphabet était affiché. Absolument. Et que, bien entendu, dans ce travail, les enseignantes, et moi je ne faisais que les encourager à le faire d'ailleurs, utilisaient chaque fois, mais en fonction d'un texte lu dans la littérature enfantine, pourquoi de ce mot-là, c'est pas juste, tu as dit pourquoi est-ce que c'est pas juste, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le lire correctement, etc. Et il y avait bien entendu quand même un travail sur le code, mais rien sur la conscience phonologique.
Par rapport aux expériences françaises, je suis allée un peu à Genève, je dirais que c'était des méthodes naturelles, à départ littérature plutôt que texte d'expérience produit par les enfants, et sans imprimerie, mais avec beaucoup de tapis à la machine.
Ouais.
Voilà. Ouais. En gros, c'était à peu près ça. Ouais. Alors, chaque enseignante menait son analyse progressive du découpage en mots, repérage de manière variable selon les circonstances, début, fin d'année, et puis selon les institutrices. Mais en gros, on peut dire ça. Voilà.
Alors, l'autre question,
c'est la randomisation.
La diminution des études, là, c'est dû simplement au fait que c'est le nombre d'études qui étudient ce problème-là. Il n'y en a que quatre, parce que ce n'est pas la même comparaison. Les études qui comparent, qui vont jusqu'à étudier la compréhension pour voir s'il y a des effets des méthodes phoniques sur la compréhension, il n'y en a que quatre.